Deux animateurs cohérents, deux visions différentes. Une seule mission, pas comme les autres. Mario Dumont et Vincent Dessureau.
Cube Radio.
Bonjour, bonjour tout le monde. Bienvenue à l'émission. On est ensemble pour les deux heures à venir. Bonjour Vincent.
Salut Mario.
Est-ce qu'on est dans la campagne électorale?
Ben, est-ce qu'il y a du suspense? Beaucoup?
Peu. Mais peu. Monsieur Singh a quand même été clair. Moi qui fasse une surprise de tout le monde.
Ouais.
Mais là, on est dedans présentement.
On est en plein vote de confiance. Donc, on pourrait tomber en élection. On comprend que ça n'arrivera pas parce que la NPD a déjà dit qu'ils allaient voter contre la motion des conservateurs. Mais là, c'est le vote. C'est interminable, faut dire, parce que on va voir tout le monde dans sa, ceux qui sont pas présents. Sur Zoom, là, donc on est en...
On va tout bien cadré. Hein?
En là, tu vois un petit un dessus de tête, là.
Et, avec tous les cadres en haut.
Avec les cadres, on voit des plantes, on voit chez tout le monde. Mais le vote qui va bon train, tranquillement, pas vite, mais on s'entend que, retenez pas votre souffle, ça devrait... on ne s'en ira pas en élection
non,
au niveau fédéral.
On pensait que Jack Metzing, le NPD, allait peut-être faire une espèce d'entourloupette, voter contre, mais juste un, là, tu sais, pas mettre le nombre, pas mettre tous les députés pour pas renverser le gouvernement. Mais finalement, ils vont juste voter avec les libéraux.
Oui, on verra le vote final, s'il y en a qui seront différents, mais c'est en cours. Mais on retient pas de
ça. M. Singh n'est pas en train de devenir le député d'opposition le plus apeurant là, pour Justin Trudeau.
Non.
On reparle de tout ça, mais d'abord, on rejoint Paul Larocque et 100% Nouvelles.
15h30, c'est le moment de joindre Mario Dumont en direct dans son studio de Cube Radio. Salut Mario.
Bonjour.
Alors, écoute, au moins, on se parle sur l'écran, on voit, on a l'impression qu'il y a un troisième intervenant dans notre discussion. Non, 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 ce sont des députés qui votent un à un. Mario, là, ils votent sur un amendement à la résolution principale, là. Je le rappelle, une résolution qui, en principe, aurait pu peut-être provoquer une élection générale. On a vu plus tôt aujourd'hui, à 13h, Jack Metzing du NPD, tout de suite dédramatiser la situation. Il va voter avec le gouvernement pour empêcher une élection. Mais ça reste serré, Mario. Hein, tu sais, on fait le total des votes là, aux communes, 153 libéraux. On additionne les conservateurs et les bloquistes. Ils arrivent à 153. Donc, les 24 du NPD font la différence. Il y a des indépendants également. Puis bon, alors on se disait, si le NPD décide de s'abstenir, ça pourrait être dangereux. Puis il y a le vote à distance aussi. Tu sais, on ne sait jamais techniquement ce qui peut arriver. Mais bon, tout indique que, là, restons prudents quand même, mais tout indique qu'il n'y aura pas d'élection générale au pays. Premièrement, Mario, je parle aux citoyens du monde. Hein. Es-tu soulagé de ça?
Ben, on s'entend que des élections, ça n'avait pas rapport, mais là-dessus, là, il faut être juste. Les bloquistes et les conservateurs étaient fermes sur le fait qu'ils voulaient cette motion pour créer ce comité sur l'éthique, mais qu'ils ne voulaient pas en faire une question de confiance. C'est vraiment Monsieur Trudeau qui a retourné cette question-là, une espèce de croix ou meurt. Si vous voulez m'imposer un comité sur l'éthique, il n'y en aura pas de comité sur l'éthique, à moins que vous gagniez les élections. Là. Dire, on prend aller en élection là-dessus. M. Trudeau jouait le tout pour le tout. En même temps, voulait, je pense, faire une démonstration de force au parti d'opposition. J'ai pas trouvé A1 la façon dont hier et aujourd'hui Jack Metzing s'en sort. À la limite, si c'était pour supporter le gouvernement, j'ai trouvé beaucoup plus logique, tu sais, en termes de communication avec le public, beaucoup plus d'aplomb la position de la chef du Parti Vert, là. Tu sais, qui dit, ben garde, là, c'est de l'enfantillage, tout ça, on n'en veut pas d'élection, on va agir en conséquence. Alors que M. Singh, qui est pour, qui est contre, mais qui dit qu'il laissera pas Justin Trudeau, puis qui finalement, il laissera pas Justin Trudeau faire, mais il l'appuie, c'est plus de la matière à caricaturiste qu'une position, disons, qui va connecter avec un électorat raisonnable, là.
Mais qu'est-ce que tu comprends et tu lis des événements des dernières 24 heures? D'abord, commençons par les libéraux. Là. Les libéraux disent on veut pas d'élection, mais et ils décident est-ce qu'ils ont joué au fond à mon père est plus fort que le tien ou est-ce qu'ils en souhaitent pas, sans le dire, ils en souhaitent pas des élections en ce moment? Est-ce que ça se peut qu'il y ait certains libéraux qui disent c'est le temps d'y aller?
Oui. Je pense que les libéraux seraient prêts pour des élections plus que les autres partis. Mais en fait, les deux choses que je retiens des libéraux, du côté positif, c'est ça. C'est un parti qui a l'air confiant, qui a l'air à pas avoir peur, puis qui barbe les partis d'opposition en voulant dire, regarde là, si vous voulez nous niaiser, puis tout ça, nous autres, on n'a pas peur, on est prêts à aller en élection. Du côté négatif pour les libéraux, le public va quand même retenir. Tu sais, on avait prorogé, donc arrêté les travaux parlementaires, pour mettre fin à ces travaux, entre autres sur We Charity. Puis on espérait, on se disait, ah, 6 semaines plus tard, là, tu sais, on va pas recommencer ça, on va pas repartir ça. Alors là, il faut quand même dire que les libéraux, l'opposition leur a fait une jambette réussie. L'opposition a réussi à ramener le sujet We Charity assez gros pour que ça amène cet après-midi ce vote dramatique, etc. Et le public va quand même retenir que Justin Trudeau, il en veut vraiment pas, là, de comité qui va enquêter l'éthique. T'sais, c'est au point où, s'il y avait un comité prêt à enquêter l'éthique, là, ça le fait tellement suer qu'il veut partir en élection. Fait que, tu sais, le type qui dit « j'ai rien à cacher », mais si vous faites une enquête sur moi, là, tu comprends, je mets une bombe dans la pièce, là, tu sais, ça fait comme... J'ai pas tant que ça le goût de me faire vérifier ou de me faire qu'on aille au fond de ces affaires-là. Alors ça, pour moi, c'est le point qui est plus négatif, là, qui est plus difficile à justifier pour les libéraux.
Oui, c'est ça. J'ai rien à cacher, mais je veux rien montrer. Là. C'est un peu ça.
Ouais.
Puis, Mario, les révélations de Jules Richer dans le Journal de Montréal et de Québec aujourd'hui, t'as vu ça. Ramenons-nous au printemps dernier, un contrat sans appel d'offres. Et là, c'était la course pour les ventilateurs. Tout le monde comprend ça, d'un côté. Mais de l'autre, il donne un contrat à une compagnie qui appartient à un député qui était encore député libéral 6 mois là, avant l'octroi du contrat, là, qui ne s'est pas représenté aux élections d'il y a un an, là, d'ailleurs, aujourd'hui. Ça fait un an. Et puis... Ils utilisent un stratagème. Ils passent par une petite compagnie.
Il y a de deux employés.
Comme par hasard, une semaine avant. Deux employés, une semaine avant, qui, elle, sous-contracte, tiens, à l'entreprise qui appartient à cet organisateur libéral qui a été aussi député pendant un mandat. Mario, ça s'ajoute, ça. S'ajoute au reste.
Et le contrat, il y a beaucoup de choses qu'on comprend. On comprend qu'il fallait des ventilateurs en urgence. On comprend que quand tu veux des ventilateurs en urgence, tu vas payer une prime. Là. Tu vas pas payer le prix de base que tu aurais payé sur le marché normalement en l'absence d'une pandémie. Mais Paul, la prime est grosse. Là. Sur le marché international, l'évaluation qui est faite, c'est qu'un appareil comme ça vaut une dizaine de milliers de dollars et ça fabrique pour 10 000. Tu sais, si c'était 12 000, moi, je dirais c'est la prime normale pour... Tu sais, il y a une situation de crise. Même 13, 14, tu sais. Mais là, on est à 23 000, là, presque 2,5 fois le prix normal. Alors, c'est certain que ça soulève la question. T'obtiens le contrat comme ça, facilement, par une... Tu sais, au billard, on aurait dit, il a amené le contrat par la bande, là. Il a fait le contrat par la bande.
Combine dans le coin,
ouais. Ouais, c'est ça.
Ouais, combine
dans le coin pour faire aboutir le contrat à un libéral pour 2,5 fois le prix. On peut penser que c'est un contrat qui a été quand même assez profitable.
Bon, on se parle, Mario, et le vote continue toujours de manière virtuelle. Il semble que les députés sont, jusqu'à maintenant, semblent être en mesure de voter.
Ils ne sont pas tous bien cadrés au niveau de leur caméra, là.
Non. On voit que Stéphane Dion a fait des petits quand même, hein, Mario? Mais toi, t'as très bien fait ça quand t'étais chez vous, là, pendant une dizaine de jours.
Je me suis forcé.
Là,
pour deux heures, je me forçais pour me cadrer, là.
On voit que tu as évité le piège, Dion. On a compris ça. Mario, parlons maintenant de l'état de la pandémie. Bon, tu as vu les chiffres aujourd'hui. On est repassé au-dessus des 1000 cas. Il y a eu quand même pas mal de décès aujourd'hui. Puis là, la dernière nouvelle en ligne, ça s'étend, là, la zone rouge. C'est l'ensemble, le centre du Québec et la Mauricie également qui passe au rouge. Là. Pour ceux qui nous écoutent, Mario, là, c'est Shawinigan, par exemple. On monte vers le nord. Saint-Tite est touché maintenant. Les Grandes-Piles, Saint-Roch, Saint-Joseph-de-Léquinac. Jusqu'à la TUC, exactement. Tout ça bascule en rouge en ce moment. Donc, on le sent, c'est dommage, mais c'est comme inéluctable.
Oui, mais c'est une région où il y a eu énormément de cas là, ces derniers jours. C'est une région où la situation s'est détériorée. Ce que j'entends néanmoins, là, malgré cette perception qu'on a, qu'on ajoute toujours du rouge, ce que j'entends, c'est que M. Legault, son entourage, mais surtout lui, on rêve encore, malgré tout, de pouvoir donner aux Québécois quelques bonnes nouvelles, un petit signal d'espoir, quelque chose pour l'après 28 octobre. On a annoncé 28 jours. On sait bien qu'on pourra pas leur ramener tout le monde à débarquer de la zone rouge, ramener tout le monde dans la zone orange. Mmh. Oubliez ça. Ça peut pas arriver.
C'est dans une semaine, Mario.
C'est dans une semaine.
Il manque une semaine, là.
C'est dans une semaine. Mais, exemple, on pourrait avoir annoncé déjà la décision aujourd'hui ou hier d'avoir reporté de 14 jours. On me dit que la raison pourquoi on le fait pas, on veut attendre d'avoir le plus de chiffres possible, le plus tard possible, dans l'espoir que ça se calme, que ça baisse, que les hospitalisations repartent en baisse, quelque chose comme ça, pour pouvoir donner un petit peu de liberté. Je me demandais, est-ce qu'on pourrait, par exemple, faire repasser la région Bas-Saint-Laurent, où ça va beaucoup mieux? Là, on s'en tient à 1, 2, 3 cas par jour ces temps-ci. Est-ce qu'on pourrait faire repasser la région Bas-Saint-Laurent de orange à jaune, là, montrer que cette fameuse échelle des couleurs, ça s'en va pas toujours dans la même direction, ça va pas toujours vers le plus sévère, mais que ça peut relâcher de l'autre côté quand une région, ça va mieux. Mais je pense qu'on veut au moins donner quelque part un petit symbole un petit peu plus encourageant, parce que M. Legault, je pense, sent que c'est dur sur le moral, tout ça, puis que l'impression que c'est toujours plus de restrictions sur plus de territoire, ça vient comme le supplice d'un goutte d'eau sur la population, là.
Hey, mais au fond, il y a une chose qui importe aussi, Mario, c'est éviter à tout prix la tragédie du printemps dernier dans les CHSLD. Non, ouais. C'est clair, faut-il le rappeler, mais faut pas hésiter à se rappeler qu'on a un des pires bilans sur la planète pour la protection de nos personnes âgées ici au Québec. Mario, j'ai vu cette nouvelle-là passer tôt ce matin, puis Yves Poirier, Superman, on va aller le retrouver tout de suite du côté de Marieville, où on a appris, Yves, qu'il y a un CHSLD là-bas, en secteur de Marieville, il est aux prises avec une éclosion majeure. Là. On parle de à peu près 90 cas là, au CHSLD Sainte-Croix, où vous êtes en ce moment, Yves.
Oui, ça va pas en s'améliorant, Paul. Les employés sont inquiets à l'intérieur. On est à Marieville, effectivement, sur la rive sud de Montréal. Vous avez juste ici, Paul, le CHSLD Sainte-Croix. Vous avez compris, ce sont des soins de longue durée, des gens en fin de vie. D'ailleurs, une infirmière qui est venue me parler tantôt, elle ne voulait pas être à la caméra, mais ce qu'elle me dit, Paul, c'est qu'il y a 7 patients qui ont la COVID, qui sont en fin de vie. On leur offre donc ces derniers soins de confort. Il y a un manque de personnel. Et ça, c'est la qualité des soins qui va en prendre pour son rhume. C'est pas par manque de volonté du personnel. On fait ce qu'on peut, Paul. La pression est lourde quand même sur les employés en place. On éteint des feux, là. Et c'est ce qu'elle me disait tantôt, l'employé. Alors, plus de 80 cas positifs. Ça, c'est les employés et également les patients. Paul, à notre arrivée tantôt au CHSLD Sainte-Croix de Marieville, ce sont des employés affectés au transport funéraire qui récupéraient le corps d'un résident. C'est dur comme image, mais ici, on commence malheureusement à être habitué. Et ce qu'on me disait, c'est qu'on avait été épargné par cette première vague au CHSLD Sainte-Croix. Je me suis entretenu avec des employés qui disent qu'il faut garder la tête froide par les temps qui courent.
C'est sûr que bon, c'est une éclosion, c'est toujours un petit peu stressant, mais tout le monde fait du mieux qu'il peut. Puis on a une bonne équipe là, quand même, malgré tout, là, ça se passe bien. Pour la protection, ça va bien, on manque pas de savon ou de gel hydroalcoolique. On a des jaquettes en masse, des masques, les gants également. Fait que on est quand même bien protégé pour l'équipement, on a tout ce qu'il nous faut présentement.
Mais somme toute, ça va bien. C'est le bordel un petit peu dans la paperasse, on est en retard, comme les signes vitaux, ces choses-là, mais sinon... On s'entraide. On a tout ce qu'il nous faut. On manque de rien. On a des gants en masse, des masques, les jaquettes à toutes les chambres. On a de quoi se désinfecter les mains, désinfecter notre matériel. Là, c'est correct à ce niveau-là, oui.
Mario, on peut pas s'empêcher de se dire que ce qu'on entend là, c'est tellement une bonne nouvelle dans les circonstances. C'est un peu comme si les pompiers avaient à leur disposition l'équipement nécessaire pour éteindre le feu. Elle est là, la différence entre aujourd'hui et le printemps dernier.
Ouais. On est mieux équipés, mieux préparés, mais... Une éclosion aussi grosse dans un foyer de personnes âgées avec des gens... Bon, là, on a dit qu'il y en a certains qui étaient déjà en fin de vie. Bon, peut-être qu'on va accélérer un peu la fin de la vie, mais dans la plupart des CHSLD où on a vu des nombres d'éclosions aussi élevés, il y avait aussi des gens qui n'étaient pas en fin de vie. Ben, ils n'étaient pas jeunes, ils sont au CHSLD, ils sont très âgés, en perte d'autonomie, mais qui n'étaient pas en réelle fin de vie, qui étaient encore relativement corrects et qui ont perdu la vie aussi. Ah, c'est un peu, pour moi, là, tout l'automne, là, le dernier mois, c'est une après l'autre, les fameuses choses qu'on voulait éviter qui finissent par se produire. Là. On voulait éviter d'être obligé d'annuler des chirurgies ou des opérations régulières, etc. Pas partout, mais à certains endroits, on est obligé de le faire. On voulait éviter... Bon, peut-être qu'il y a des choses qui sont tout simplement inévitables, mais... La deuxième vague est tellement forte qu'une à une, les choses qu'on avait annoncées qu'il fallait à tout prix éviter ça, ben, c'en était une. Ça, des grandes éclosions en CHSLD avec des dizaines et des dizaines de cas, on voulait l'éviter. Il y en a moins, mais on le vit quand même. Mm-hmm.
souhaitons qu'il n'y en ait pas d'autres ailleurs. Avant de te laisser, Mario, tu as vu le ministre des Finances à Québec annoncer qu'il y aurait une mise à jour économique dans 3 semaines, donc le 12 novembre. Mario, du côté de Québec, là, on semble s'enligner vers un déficit d'autour de 15 milliards de dollars. Mario, il y a un an, tu aurais annoncé ça, un déficit de 15 milliards au Québec. Tu aurais dit c'est la catastrophe absolue, mais quand on compare le Québec avec les autres provinces et avec le fédéral, force est d'admettre, on s'en tire quand assez bien, merci, dans le contexte.
C'est pas si pire, mais en même temps, on s'entend que, prenons l'application concrète, parce qu'au-delà d'un chiffre, le déficit, là, prenons les applications concrètes de ça, on est dans des négociations dans le secteur public. Lorsque la négociation s'est amorcée, lorsque les syndicats ont déposé leur première demande, etc., l'hypothèse de base, c'était un Québec là qui était en surplus. Enfin, les organisations de syndiqués du secteur public disaient « ça va être notre tour, on va passer à la caisse ». Il y a eu les négociations là depuis 20 ans. À chaque fois, le gouvernement est en déficit. On nous dit « faut que vous vous serriez à ceinture ». Et là, on se disait « c'est le temps de passer à la caisse ». Ils négocient maintenant avec un gouvernement qui a un déficit de 15 milliards. Puis la même affaire, là.
Merci, Mario.
Au revoir.
À demain. On va continuer.
Alors, Vincent, le bilan des cas. Aujourd'hui, on est repassé sur... Mais je sais qu'à quel point toi, tu te méfies du bilan du mardi, là, parce que...
Oui,
c'est toujours plus bas le mardi, parce que je me suis fait expliquer un peu pourquoi. C'est que le mardi, là, ce qu'on sort le mardi matin, c'est ce qu'on a recueilli comme chiffre le lundi. Dans la journée du lundi jusqu'à 16h.
Non, on est mercredi aujourd'hui.
Oui, mais hier, il était plus bas.
Effectivement.
Hier, il était sous les 1000.
Je parlais
d'hier parce qu'hier, il était sous les 1000. Mais donc, le bilan d'hier, du mardi, c'est les chiffres colligés dans la journée du lundi. Donc, ça s'appelle les chiffres du dimanche.
Oui.
Tu sais, tout est en retard un peu. Le lundi, tu colliges dans chaque région les chiffres du dimanche. Et le dimanche, il se fait moins de tests. Il y a moins de gens qui vont... Tu sais, c'est logique aussi, il y a moins de laboratoires. Tu as toujours un peu moins de tests. Donc, les chiffres du mardi... Les chiffres publiés le mardi matin sont souvent, sinon toujours, moins élevés. Donc
plus bas. Et partout dans le monde, chaque pays qui sort des chiffres a toujours une courbe comme ça au fil de la semaine.
Partout, il y a des fins de semaine.
Absolument. Mais alors, on essaie de comparer soit de semaine en semaine. Et aujourd'hui, à 1072 cas, ça revient un peu à notre plateau. Là. Alors, effectivement, on y avait cru une fois là, qu'on était dans les 800. On est un petit peu plus sceptique. Je pense qu'effectivement, hier, tout le monde était bon. On était à 877, je me trompe pas. Mais on va attendre de voir, effectivement. On est au-dessus de 1000.
Des observations par région?
Faut dire 19 décès là par région. Capitale-Nationale, encore là, ça va pas très bien. Hier, on était anormalement bas. Là, on est revenu à des chiffres tout près de 200. C'est presque les chiffres de Montréal pour Québec, avec une population quand même pas mal moindre. Mauricie à 68. Encore là, Chaudière-Appalaches très élevé à presque 100. Montérégie, 212. Là, on comprend également avec l'éclosion dont on vient de parler. D'ailleurs, Capitale-Nationale, c'est 8. Presque la moitié des décès sont dans la Capitale-Nationale avec 8 décès. Et ça fait qu'on surveille la situation un peu partout. D'ailleurs, à Montréal, la responsable de la santé publique, Dr Mylène Drouin, a fait un peu le point là, pour ce qui est de Montréal, avec un ton quand même positif, comme quoi on semble avoir aplati la courbe à Montréal. On est toujours autour d'une moyenne d'à peu près 200-250 cas par jour.
Pas trop d'éclosions ou de cas dans le secteur de la santé ou dans les établissements de soins.
Effectivement.
Plus c'est des jeunes.
Alors, le ton est un peu plus positif. Je vais vous faire entendre d'ailleurs un extrait du Dr Drouin.
La situation montréalaise progresse dans la bonne direction. Les efforts que nous faisons maintenant depuis plusieurs semaines commencent ou semblent porter fruit. Montréal, par contre, demeure là, au palier rouge dans l'ensemble de ces indicateurs, mais on voit clairement que l'importante hausse qu'on avait dans notre courbe épidémique en début septembre s'est transformée en un plateau qui maintenant se maintient depuis 2 semaines. Et ce qui est aussi encourageant, c'est que le taux de reproduction est passé sous la barre du 1.
Alors, c'est ce qu'on vise, là, d'être en bas du 1 pour la reproduction, ce qui montre qu'on contrôle que le feu ne se propage plus, si on peut dire. Des coins, par contre, dans ce qui est plus négatif, le dépistage en baisse. Alors, on sent qu'il y a moins de gens qui vont se faire dépister. Il y a moins d'interactions aussi, les gens ont peut-être moins tendance à y aller parce qu'il n'y a pas eu de grande éclosion dans des bars, par exemple, qui ont déclenché des immenses vagues.
Moi, je pense que c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a autant de cas, donc le taux augmente, parce que t'as autant de cas, mais sur moins de tests au total. Mais il faut voir que, comme tu viens de le dire, pour moi, c'est ça la clé. Il y a moins de ces grands rassemblements. Ça, là, ça amenait plein de gens à se faire tester. Parce qu'à un moment donné, mettons, toi, on dit là, d'être allé dans tel bar ou, tu sais, même à un moment donné, on avait dit les gens qui sont allés dans un bar de Montréal, on en nommait
pendant
8,
le là. Week-end, là, ouais.
Ça, mais toi, là, t'es allé dans ce bar-là, mais t'étais complètement à l'autre bout, tu sais, mais tu le sais pas, là. Toi, on te dit pas si vous avez été dans la deuxième rangée de table à gauche du, tu sais, à gauche du bar, pas loin de la toilette. On te dit pas où. Fait que t'as plein de gens qui allaient se faire tester, mais qui étaient pas vraiment à risque, qui avaient pas de symptômes. C'est juste qu'ils étaient allés dans le même établissement, mais ils sont peut-être demeurés très loin là, de la personne infectée. Donc là, t'as plus ça, comme t'as beaucoup moins de sorties, beaucoup moins de gens, donc t'as beaucoup moins ces appels généraux, tu sais, à la généraliser, à aller se faire tester. Donc les gens qui vont se faire tester, je pense que c'est plus des gens qui ont des symptômes ou qui ont été dans un milieu de travail qui a des cas. Donc la probabilité qu'il l'ait devient plus élevée. Là. T'as moins de gens, tant mieux, c'est ça.
C'est sûr qu'une éclosion dans un milieu de travail, ça déclenche rarement 2000 tests. Là. Ça va être les gens du milieu de travail direct qui vont les faire tester. Des fois quelques dizaines, des fois peut-être quelques centaines dans les plus gros cas. Des zones à surveiller, entre autres, Parc Extension, Montréal, Pointe-Saint-Charles, Snowdon, Côte-des-Neiges et Saint-Laurent. Un mot quand même sur le Bas-Saint-Laurent là, qu'on surveillait quand même depuis plusieurs semaines, qui est vraiment un exemple de région qui peut vraiment reprendre le contrôle. On sait qu'on avait multiplié par 5 en l'espace de quelques semaines le nombre de cas positifs au Bas-Saint-Laurent. Et là, on est à 2 ou 3. Quelques jours, effectivement.
À 1, je pense. Hier, aujourd'hui, même je me demande si on n'est pas à 1.
Aujourd'hui, je l'ai, Bas-Saint-Laurent plus 1.
Ouais,
alors, on est vraiment aussi. En bas.
Non, mais la région est repassée sous les seuils. T'sais, si le ministère voulait, là, est passé sous la seuil du orange. Là. Donc, on pourrait revenir en zone jaune. C'est juste que...
Ils sont prudents.
Peut-être qu'on va être prudents parce qu'on voudra pas les ramener en zone orange 4 jours plus tard, là, t'sais, mais...
Et pour le docteur Sylvain Leduc de la Santé publique de la région, dit que c'est quand même... Ça montre que c'est possible d'affronter la deuxième vague et qu'ils ont travaillé jour, soir, nuit, fin de semaine dans les résidences pour personnes âgées, dans les hôpitaux pour s'assurer d'éteindre en quelque sorte chaque éclosion. Et on demande quand même aux Bas-Laurentiens de limiter leurs déplacements. Et de pas penser que c'est fini pour autant.
Le nombre de cas de COVID qui a été suffisant quand même au Canada à l'heure actuelle pour avoir amené l'Union européenne dans sa réévaluation. Ils ont fait une réévaluation des pays dont ils ne veulent plus accueillir les voyageurs. 3 pays qui sont ajoutés sur la liste et le Canada en fait partie.
Ouais, on revise cette liste-là aux 2 semaines, mais ça fait depuis le mois d'août qu'on ne l'avait pas changé. Le Canada, contrairement aux États-Unis, par exemple, qui était permis pour...
Il y avait même eu un article, je ne sais plus, c'est... Dans quel média, je sais pas si c'est la presse ou un autre, j'avais vu un article passer hier avant-hier qu'il y avait plus de Canadiens qui allaient en Europe, là, qui comme pas des grands nombres comme habituellement, mais qu'il y avait quand même un peu de voyageurs canadiens en Europe.
Ben certains, j'en connais même, ceux qui ont la possibilité de faire un 14 jours à la maison après, sans que ça leur coûte trop cher, ou qui sont à la retraite par exemple, ça pouvait se faire là, des cours sûrs qu'il y a pas grand-chose à faire nécessairement, mais tu visites, là, tu te promènes dans les rues. Alors effectivement, il y avait un peu quand même de voyages de plaisance, et ça ne sera plus permis par l'Union européenne. Canada, Tunisie, Géorgie, donc dans la nouvelle réévaluation, on estime qu'il y a trop de cas donc au Canada et dans ces 2 autres pays. En revanche, on ajoute Singapour, qui n'était pas autorisé, mais qui le sera maintenant. Alors, on passe maintenant de 11 à 9 pays qui verront donc les gens être donc permis d'entrer. Par contre, on peut toujours se présenter en Europe pour des résidents de longue durée, les familles également d'Européens. Et c'est pas contraignant par pays, là. On sait que c'est l'Union européenne, mais comme on a la liberté de voyager, les pays essaient quand même de s'entendre sur une résolution commune. Alors, dans
la
liste...
Ça veut quand même dire qu'on peut plus arriver pour un voyage avec le tourisme comme seule raison.
Exactement. Faut avoir une raison. Faut avoir de la famille là-bas ou avoir évidemment, dans le milieu de la santé, des besoins essentiels, personnel médical, c'est permis. Sinon, vous n'êtes plus les bienvenus en Europe, malheureusement.
La FIC qui a lancé, ben on nous avait promis une série d'actions. Les ponts, c'était la première. Aujourd'hui, c'est une action moins spectaculaire, peut-être plus frappante pour le public là, en termes d'efficacité.
Oui, la Fédération interprofessionnelle de la santé qui dévoile les pires ratios patients-infirmières dans certains de nos CHSLD au Québec. Je pense que c'est vraiment pour frapper l'imaginaire.
Les ratios de nuit.
Ratios de nuit, donc un moment où il y a vraiment peu d'infirmières pour la quantité de patients. Alors, on dévoilait certains chiffres, puis effectivement, je pense que pour n'importe qui, on fait le saut, le CHSLD Saint-Maurice, en Mauricie, 180 patients pour 3 infirmières. Là, on parle effectivement de la nuit. CHSLD René-Lévesque, en Montérégie, là, c'est le pire, 224 patients pour 3 infirmières. hier. Et au manoir Trinité, en fait, c'est quasiment pire là, 119 patients pour une seule infirmière. Alors, c'est ce qu'on dévoile. Nancy Bédard de la FIC disait aujourd'hui que ça, évidemment, ça a un impact sur la qualité de vie des patients, mais également pour la qualité de vie des employés. Elle était contente que François Legault, hier, dans son point de presse, ait reconnu qu'il y avait une surcharge de travail, ce qui semble, dans la table de négociation, qui était difficile à faire admettre, qu'il y avait une surcharge de travail et que là, c'est fait. Alors, voyez ça comme un pas en avant, mais c'est sûr que c'est des chiffres. C'était pour entre le 1er et le 18 septembre. Alors, c'est beaucoup. Ça fait beaucoup de monde.
Mm-hmm. Ouais. Ma seule réserve, là, évidemment, j'aime mieux ça que bloquer des ponts, mais il y a quand même un côté de moi. Bon, je suis pas très sympathique aux moyens de pression en général. Je suis pas très sympathique à l'approche syndicale, surtout dans le secteur public. Je comprends qu'un syndicat du secteur privé, quand il voit, mettons, sa compagnie là, qui fait, mettons, pendant 3 ans de suite, des profits records. Je sais pas, t'es dans le secteur minier, là, pis ça a pas de bon sens, la compagnie roule sur l'or.
Ça met plein les poches.
Mais là, tu te dis, regarde, nous autres, les employés, là, si l'industrie va bien, le minerai, c'est nous autres qui le sort, puis qu'on ait des augmentations de 3-4% de plus, c'est qu'on aille chercher une petite tranche de ces profits extraordinaires, c'est tout à fait correct. Mais dans le secteur public, les hauts cris, je suis pas en train de nier la surcharge des infirmières, c'est quelque chose qui est bien réel, mais que le gouvernement reconnaît, que le ministre Dubé reconnaît. Jusque-là, on veut mettre le public de son bord, on dit, regarde, les patients sont à risque. Mais tiens, toi et moi, Vincent, si les patients sont à risque, là, si les gens de la FIC ont compilé des statistiques comme ça, nous montrant à quel point les patients sont à risque, est-ce qu'on n'aurait pas dû faire ça il y a 6 mois, publier ça tout le temps, le faire connaître au public à n'importe quel moment? Est-ce que c'est vraiment d'utiliser ça, d'utiliser le mauvais traitement aux gens comme un moyen de pression? Là, on publie les listes parce que là, cette semaine, on met de la pression sur le gouvernement parce que c'est la semaine crunch là où on veut que la négociation aboutisse. Je me suis quand même posé la question, tout en disant, je comprends ce qu'ils font, là, tu sais, puis je comprends ce qu'ils veulent obtenir. Mais moi, comme citoyen, comme patient, comme contribuable, je me dis, OK, documentation intéressante, mais là, on nous la sort comme moyen de pression,
pour la négociation.
On va aller à la culture.